Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le lupus systémique et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Christophe Richer. Professeur Richer, bonjour.
Bonjour.
Professeur Richer, vous êtes rhumatologue, PUPH au sein du service de rhumatologie du CHU de Bordeaux. Vous coordonnez le site constitutif du Centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares de l'Est et du Sud-Ouest sous l'égide de la filière FAI2R et vous participez à la rédaction du nouveau PNDS sur le lupus systémique. Alors, professeur Richer, aujourd'hui, nous abordons les traitements du lupus systémique. Et tout d'abord, quels sont les enjeux de la prise en charge de cette maladie rare?
Le vrai objectif, l'enjeu de la prise en charge, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de vie des patients. Je dirais même qu'il faut être plus ambitieux, c'est leur permettre de mener une vie normale, même si, hélas, de temps en temps, c'est plus difficile qu'on ne l'imagine et au prix de la prise de médicaments quotidiens. Et comment on fait pour améliorer cette qualité de vie? Eh bien, en contrôlant l'activité de leur maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être une nécessité de tous les jours, en évitant les poussées, parce qu'on sait que chaque fois qu'un patient fera une poussée, il a un risque d'avoir des séquelles qui peuvent être définitives. Tout ça, c'est clairement plus facile si on est capable et si on fait un diagnostic précoce. Et donc, ça doit faire partie des objectifs de faire un diagnostic précoce. Et comme ce que je vous ai dit est difficile, il ne faut pas hésiter à s'aider d'une équipe multidisciplinaire. Donc, c'est un travail de plusieurs collègues ensemble pour faire et proposer une prise en charge personnalisée aux patients. Il faut bien comprendre quand même que c'est une maladie très hétérogène avec des manifestations diverses et variées et ça complexifie bien sûr la prise en charge. Donc, pour répondre quand même précisément à votre question, ce qu'on va viser, c'est la rémission. Et donc, c'est-à-dire l'absence d'activité clinique, et ce, avec une dose de corticoïdes qui doit être inférieure ou égale à 5 mg par jour. En revanche, on peut accepter qu'il y ait toujours une activité sérologique. J'entends par activité sérologique la présence d'anticorps anti-ADN ou une consommation du complément. Et on peut et on doit des fois accepter que le patient poursuive les immunosuppresseurs pour obtenir cette rémission clinique. Et le fait de prendre un immunosuppresseur, s'il est bien toléré, ne nous amène pas à considérer que le patient n'est pas en rémission. Parce qu'en fait, ce n'est pas une guérison, c'est une rémission. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais pour vous aider, c'est pour ça qu'il y a ce protocole national de soins, le PNDS du lupus, pour essayer de guider l'ensemble des cliniciens sur la prise en charge de ces patients.
Alors justement, en termes de prise en charge, on va commencer par la prise en charge non médicamenteuse. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients?
Donc cette prise en charge non médicamenteuse, elle est indispensable. Elle n'est pas non plus excessivement compliquée. Ça passe par la protection solaire, puisqu'on a bien montré qu'il y a un risque de poussée de lupus quand on est exposé au soleil. Et d'ailleurs, vous remarquerez que souvent, les lésions cutanées sont sur les zones photo-exposées. C'est aussi l'arrêt de l'intoxication tabagique. Ça, c'est important, puisque ça expose à une activité de la maladie, ça expose à une moindre efficacité de certains traitements, et ça expose bien sûr à des complications. C'est aussi une alimentation saine et équilibrée. Ça, je le conseille un petit peu à tout le monde. C'est un exercice régulier pour éviter de tomber dans une espèce de spirale où on a une fatigue, on a une perte d'autonomie et probablement qu'il y a un effet vertueux pour le coup à avoir un exercice régulier. Et on recommande aussi d'avoir une protection osseuse, donc avoir une alimentation avec des aliments riches en calcium, un certain nombre de choses. Quand on parle de prise en charge non médicamenteuse, on se permet d'y rajouter l'éducation thérapeutique. Puisque je vous ai parlé de prise en charge multidisciplinaire, c'est important qu'on soit plusieurs à s'atteler à la prise en charge de ces patients pour ne rien oublier. Cette éducation thérapeutique, elle pourra aider à la prise en charge des comorbidités. C'est important de s'occuper du risque néoplasique, c'est important de s'occuper du risque infectieux, par exemple en rappelant la nécessité de vacciner, c'est important de s'occuper du risque osseux, j'en ai parlé déjà, mais aussi du risque cardiovasculaire. L'éducation thérapeutique permet aussi aux patients d'accepter sa maladie, ça c'est indispensable pour qu'il accepte la prise en charge qu'on va lui proposer. Et puis l'éducation thérapeutique, elle peut aussi permettre à des questions aussi simples que comment je fais un emprunt auprès de la banque et je remplis les documents. Tous ces éléments, vous pouvez le trouver sur le site de la filière de la FI2R où on essaye d'accompagner et d'aider les patients.
Et si on s'intéresse maintenant aux médicaments, quelles sont les prises en charge médicamenteuses possibles pour cette maladie rare aujourd'hui?
Le pilier de la prise en charge du lupus systémique, c'est les antipaludéens de synthèse. C'est important de le dire, de le répéter, puisque en fait, c'est un médicament qui a une efficacité au long cours. Si le patient l'oublie un jour, s'il l'oublie même 2 ou 3 jours, il ne se rend pas compte en fait que le médicament est indispensable. Et c'est que 3 mois ou 2 mois plus tard qu'il va payer cet arrêt. Et donc, j'insiste lourdement sur la nécessité que tous les corps de métiers médicaux rappellent l'importance de la prise de ce traitement auprès des patients. On ne va pas se cacher, de temps en temps, on utilise des corticoïdes. Et ça, c'est sujet à débat. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on en utilise moins qu'avant et qu'on en utilise moins longtemps qu'avant. On est tous à peu près d'accord pour dire que l'objectif, à terme, c'est d'en donner moins de 5 mg par jour. Et je dirais même que l'objectif, c'est de l'arrêter. Si je dois faire passer un message aujourd'hui, c'est que je pense qu'il ne faut jamais introduire un corticoïde ou augmenter la dose de corticoïde sans s'être concerté avec le médecin qui prend en charge le patient pour son lupus systémique. Pourquoi je dis ça? Alors, il y a bien sûr quelques urgences gravissimes, mais pour d'autres choses, une aggravation d'atteinte articulaire, je pense qu'il ne faut pas augmenter les corticoïdes puisque, en fait, vous empêchez le futur médecin qui le prend en charge de prendre une décision et au final, c'est délétère et je pense qu'on ne fait que perdre du temps et c'est un frein à la prise en charge future du patient. Il y a d'autres médicaments qu'on peut proposer et on parle de traitements qui sont des immunomodulateurs. C'est souvent des traitements qu'on emprunte à la polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi des immunosuppresseurs. Pour le coup, ceux-là, on les emprunte plutôt à la greffe. Et il y a aussi désormais des biothérapies. En l'occurrence, là, il y en a 2 biothérapies qu'on va décider en fonction de l'activité de la maladie, de sa sévérité et surtout aussi des atteintes. C'est-à-dire qu'on va proposer traitement quand il y a une atteinte cutano-articulaire, un autre traitement quand il y a une atteinte rénale, puisqu'on sait que, par exemple, certains vont très bien marcher sur le rein, un peu moins sur les articulations. Donc, tout ça, c'est décidé en fonction des différentes atteintes du patient.
Et ensuite, professeur Richer, quel suivi proposer aux patients qui sont concernés?
Je dirais que le suivi, il est adapté à l'activité de la maladie. Il est aussi, bien sûr, adapté à la sévérité de la maladie. On ne va pas suivre avec la même intensité un patient qui a une atteinte cutano-articulaire et un patient qui a une atteinte rénale, surtout si l'atteinte rénale est active. Donc des fois, on va les voir tous les mois, ça veut dire quand même que les choses ne se passent pas exactement comme on veut, mais sinon, je dirais qu'on va les voir tous les 3 à 6 mois. Je pense que le plus important, c'est d'être disponible quand ils en ont besoin, et d'être disponible quand il y a une urgence. Et ça, je pense que ça exige qu'il y ait une parfaite collaboration entre les différents médecins et que chacun puisse contacter l'autre au moment opportun. C'est aussi important dans l'éducation du patient que de lui dire de ne pas hésiter à nous contacter au moment opportun. Après, une fois que j'ai dit ça, il faut bien sûr faire un bilan biologique régulier. Alors, des fois, il est là aussi pour surveiller la tolérance du traitement, mais de temps en temps aussi pour l'efficacité du traitement. Et notamment, on a des biomarqueurs, je pense aux anticorps anti-ADN et à la consommation du complément, qu'on va faire tous les 3 ou 6 mois pour juger de l'évolution de la maladie. On ne se gêne pas chaque fois que le patient est disponible pour faire une analyse d'urine, puisque la grosse crainte qu'on a dans le lupus systémique, c'est la néphrite lupique, l'atteinte au niveau du rein. On sait très très bien diagnostiquer avec un test simple qui peut être une bandelette urinaire ou qui peut être un recueil d'échantillons d'urine avec un calcul du rapport protéinurie sur créatinurie. Ça, c'est super pour diagnostiquer l'atteinte rénale. Il ne faut vraiment pas se gêner pour le faire dès que le patient a l'impression qu'il y a une reprise d'activité de la maladie. Puis, il faut le faire à chaque fois qu'on le voit à la visite. Voilà, on recommande de faire au moins annuellement quand même une recherche d'atteinte d'organes. Donc, ça veut dire une bonne auscultation cardio-pulmonaire. De nouveau, les urines, regarder s'il y a des EDM, prendre la tension artérielle. Puis la dernière chose dans le suivi, c'est les complications, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie aux antipaludéens de synthèse. On sait que ça se dépose au niveau de la rétine, ça peut provoquer des complications donc ophtalmologiques. Et donc, il est recommandé, au bout de 5 ans d'exposition aux antipaludéens de synthèse, de faire un suivi ophtalmologique régulier avec un examen type de champ visuel, un fond d'œil, et puis un examen objectif qui peut être un électrorétinogramme ou un OCT. Et puis après, une fois qu'on l'a fait au bout de 5 ans, on essaiera de le faire tous les ans pour surveiller qu'il n'y a pas de complications à ce niveau.
Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, les patients atteints de lupus vont également régulièrement voir un médecin traitant. Que demander aux médecins traitants et aux autres spécialistes qui prennent en charge ces patients?
Oui, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je pense que j'insiste lourdement sur le fait que le lupus systémique est une maladie excessivement hétérogène. Et d'ailleurs, vous verrez que sur le site de la filière, donc la FEI2R, on propose le nom de centre de compétences, de centre de référence pour que on ait accès à ces spécialistes du lupus systémique et des différentes spécialités. Si on se concentre sur le médecin traitant, je pense que il y a une aide qu'on demande auprès du médecin traitant sur les corticoïdes, et notamment qui nous aide à convaincre les patients de ne pas s'automédiquer, de ne pas augmenter les corticoïdes. S'ils sentent qu'il ne va pas être écouté, que le patient va augmenter les corticoïdes malgré ses conseils, s'il peut faire un examen clinique pour s'assurer que la maladie n'est pas active, s'il peut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, un recueil urinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas une reprise d'activité à ce niveau-là, je pense que ça aidera vraiment pour la prise en charge du patient.
Eh bien, merci mille fois, professeur Richer, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le lupus systémique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.